première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Alors, c'est à Namur que nous sommes.
À Namur, la ville natale de Félicia Rops, où il est né, ici, tout près du musée, dans la rue parallèle du musée, en 1833. Ses parents étaient des commerçants. Son père commercialisait les indiennes, qui étaient ces beaux tissus d'étoffe que les dames utilisaient souvent, les tissus fleuris. Et enfant qui, au début, a été choyé, arrivé un peu sur le tard... élevé par des précepteurs privés chez Louis, avant de partir dans cette ville de Namur, dans le collège qui était peut-être le plus réputé à l'époque, qui était le fameux collège des Jésuites, qui existe toujours à l'heure actuelle.
Mais en fait, Rops en a fait plusieurs versions.
Okay.
Des petites, la grande, qui appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est en dépôt permanent au musée. Mais donc, Rops a fait différentes versions de la Pornocratès. Et elles appartiennent à des collections privées. Donc voilà, elles sont de plus petites dimensions. Celle-ci, par exemple, marche en sens inverse. Donc elle va de la gauche vers la droite. Vous voyez, les tonalités ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes détails, etc. Il n'y a qu'un seul petit angelot, alors que normalement, il y en a trois. Donc voilà, c'est un petit peu ça que cette exposition va montrer. Ce sont les différentes versions. Et aussi, un peu, on a retravaillé sur la correspondance de l'artiste. Et on essaie de refaire une chronologie pour voir un petit peu voilà, ce que l'artiste racontait à propos de sa création et surtout les difficultés qu'il a eues à vendre son dessin.
Au musée Félicia Rops à Namur, Pornocratès dans tous ses états, jusqu'au 13 mai. Bernadette Bonnier... La suite de l'existence de Félicien Rops.
Il a tout d'abord 18 ans. Il se rend compte que Namur a quand même une pensée très bourgeoise et très fermée. En plus de ça, il est orphelin de père. Il a un tuteur ici à Namur qui est échevin, qui ne voit que les chiffres et que la rentabilité. Donc, Louis veut s'ouvrir vers une carrière beaucoup plus artistique. Il a déjà le dos du dessin. Et donc, une voie de sortie, c'est-à-dire, c'est de s'inscrire à l'université. Comme ça, au moins, on est dans une autre ville et au loge autre part. Il s'inscrit donc à l'ULB où il s'inscrit en cours de philosophie préparatoire au droit. Et là, c'est vrai que ça va plus être une année de bohème étudiantine, c'est que Rops ne fréquentera pas beaucoup les cours et va plutôt fréquenter les cabarets d'étudiants et cafés d'étudiants, mais où il y avait une richesse artistique dès le départ, puisque c'est là qu'il rencontre Charles de Coster. C'est là que les premières idées de créer des salauds caricaturaux, de créer des petits opuscules comme les crocodiles aux salauds, comme le journal des crocodiles qui étaient des journaux d'étudiants, se passent et s'élaborent. Donc Rops y va, il est accueilli bras ouverts par ses cercles, dont les premiers sont les crocodiles. Rops arrive le dernier dans ce cercle. Et puis, quelques années après, fort de la fortune de son père, il décide lui-même de créer son propre journal avec Charles de Coster, son ami de toujours, qui sera Eulenspiegel, journal des ébats artistiques et littéraires, qui commence à paraître en 1856.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Les places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, me stelle.
Le monde invisible.
Alors, journal aussi, qui était un petit peu le contrepoids de ce qui se passait en France, où il y avait le journal des débats politiques, qui était un journal pro-napoléonien. On sait que les étudiants ici de l'ULB détestaient Napoléon et tout ce qu'il avait pu faire, donc ce journal allait être vraiment le contrepoids. Au départ, ils annoncent qu'on ne veut pas du tout être politique, on ne veut pas se mêler de religion, on ne veut pas se mêler de la politique de l'époque. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'art. Mais bien vite, on se rend compte que ces jeunes ont aussi la volonté de fustiger un peu la bourgeoisie de l'époque et donc des caricatures beaucoup plus politiques et beaucoup plus critiques du libéralisme tant que de la chrétienté se retrouvent dans ce journal. Rops va y participer jusque les années 1857, début 1858. Et puis, c'est l'époque où il se marie, c'est l'époque où il veut ouvrir une autre carrière, c'est l'époque où il veut aussi s'ouvrir vers le monde littéraire et l'édition aussi, avec des écrivains parisiens qu'il commence à rencontrer. Et donc, le journal s'arrête quelques années après.
Au musée Félicien Rops à Namur, Pornocrates dans tous ses états, jusqu'au 13 mai. Avec Véronique Carpio, Jacques Lennep, et les voix de Bernadette Bonnier et Anne Larue.
Alors vous avez dit monde parisien. Ce monde parisien l'attire, il va s'y rendre.
Voilà, donc ça veut dire le premier tremplin était ce Bruxelles, et le deuxième, ça va être Paris. Pourquoi ? Parce que à la fin des années 60, régulièrement, il part à Paris. Parce que quoi, il veut approfondir ses techniques, et il a eu la chance en Belgique de rencontrer Alfred Delvaux, qui était critique, écrivain, et Alfred Delvaux veut l'attirer à Paris. Il dit, un personnage comme vous, c'est à Paris, dans ses écrits, il fait des éloges de Félicien Rops, et au départ, il les présente à Braquemont et Jacquemart, les deux maîtres de l'eau forte actuelle à Paris, et donc il va chez Braquemont et Jacquemart pour affiner son art. Bon, il était marié aussi avec une jeune bourgeoise namuroise, duquel Rops était en train de puiser sur la fortune. Donc le beau-père lui dit aussi, mon ami, il est temps de travailler maintenant. Et Rops se dit, mais cher beau-père, il faut que j'aille à Paris. Quand je suis à Bruxelles, tout le monde connaît Manet, tout le monde connaît ses grands noms parisiens. Quand je vais quelques jours à Paris, je parle de mes amis Artan, Dubois, Boulanger. Personne ne les connaît. C'est là qu'on se fait connaître. En plus de ça, il dit, étant la passion aussi de la gravure, je sens qu'il y a une volonté au niveau du livre, de l'illustration de l'ouvrage, qui souffre de seul. Et là, il y a peut-être une rentabilité à avoir, et donc il faut que j'entre en contact avec ce monde littéraire et ce monde artistique parisien. Et donc c'est un peu avec la bénédiction de son beau-père qu'il part à Paris, au début quelques mois par an, et après, à partir des années 1874, ce sera l'installation définitive dans cette ville, parce que c'est là qu'il a trouvé la modernité, comme il disait, et la sphère de création.
Pornocrates dans tous ses états, par Thierry Genicot. Le monde invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Alors voilà Félicien Rops à Paris, Bernadette Bonnier. Comment va-t-il être connu ?
Alors, il est vrai qu'au début, l'installation ne va pas être facile. Il partage même avec Louis Artan, donc peintre belge, un tout petit atelier. Et on se rend compte, par les lettres, il essaye encore d'avoir de l'argent à sa femme légitime ici en Belgique pour essayer de vivre, parce qu'il faut se créer un nom. Et donc, ça va durer quelques années. Et puis, progressivement, il est vrai qu'en 1866, il publie Poulet Malassi publie Les Épaves pour Charles Baudelaire. Rops fait le frontispice, donc là, il y a quand même un nom très très important qui est pour lui une ouverture dans le monde. Et Poulet Malassi est passionné aussi de ce que fait Félicien Rops. Poulet Malassi décide, tout en étant à Bruxelles à ce moment-là, quand il est à Bruxelles, de rééditer un peu toute une série de littérature érotique et même des ouvrages du 18e, et il demande à Félicien Rops de lui faire tous les frontispices de ses ouvrages. Félicien Rops fait 34 frontispices pour Poulet Malassi, donc il y a déjà une ouverture. On peut se demander aussi pourquoi s'intéresser à cette littérature qui était un peu secondaire. Ben, quand on parle un peu de liberté, de libre pensée, il y avait aussi, chez Rops, le fait de s'intéresser à la littérature érotique, c'était pas uniquement une perversion morale comme on pourrait l'imaginer, mais il y avait aussi cette volonté d'être un peu contre la censure politique de cette littérature, et comme il aimait être un être marginal et vif en marginalité, travailler aussi pour cette littérature était affirmer sa marginalité. D'autant plus que la fin du 19e, je crois aussi, tout ce qui était un petit peu des choses étranges et était un peu lié à la supériorité de l'esprit, donc ça aidait aussi Félicien Rops et ça l'aidait à évoluer. Donc Poulet Malassi va l'ouvrir à un monde littéraire, et donc par lui, il va entrer rentrer en contact avec certains éditeurs parisiens. Et donc là, les commandes vont commencer à suivre. Et il écrit même dans une lettre à un moment donné, Gustave Doré n'est plus à Paris, il est en Angleterre pendant un certain temps. Et il dit maintenant, je suis après Doré l'illustrateur le mieux payé de Paris. Et on verra que ça va continuer jusqu'à la fin de la vie. Et que même à un moment donné, c'est carrément des éditeurs ou des écrivains qui viendront véritablement le solliciter. Parce qu'on savait qu'un ouvrage qui avait en première page un frontispice de Hobbes avait aussi une valeur commerciale plus importante. Et donc, il souffre dans ce domaine-là. Et puis, Hobbes va se composer aussi, je vais dire, une clientèle.
Alors, Véronique Carpio, nous sommes au musée Hobbes. Et pour qui n'a jamais vu cette figure qui peut poser problème? Balance ton port, ça vous dit quelque chose?
Oui, hein, me too.
C'est quelque chose aussi d'assez particulier dans l'œuvre de Hobbes, c'est qu'il n'a jamais vraiment voulu produire pour le grand public. Il disait qu'il produisait pour un nombre de gens qui étaient en communion d'esprit avec lui. Et donc, tant en Belgique qu'à Paris, et même en Angleterre, il y avait des créneaux et des collectionneurs bien particuliers. Donc il y avait ce besoin aussi de collaboration et de commande qui se faisait d'un artiste à un collectionneur qui était généralement un personnage qui avait une certaine culture, qui avait une certaine ou un sens de la bibliophilie. Et c'est ainsi qu'en Belgique, il a eu des collectionneurs tels que Edmond Picard qui a créé après le Cercle des 20. Ou bien en France, il avait des bibliophiles comme Jules Noilly et donc vraiment des clients ou bien des amateurs d'art qui avaient des collections de gravures exceptionnelles et qui voulaient toutes les gravures de Félicien Hobbes. Et donc, on a, et je veux dire, l'expérience qu'on a maintenant, les recherches qu'on fait, nous prouvent que quand on refait l'historique d'une œuvre, généralement, elle repart de grosses collections et qu'on voit qu'il y avait cette volonté de travailler un petit peu en marche de ce que pouvaient faire d'autres artistes qui avaient la volonté, eux, de se diffuser beaucoup plus.
Alors, Véronique Carpio, nous sommes au musée Hobbes. Et pour qui n'a jamais vu cette figure qui peut poser problème? Balance ton port, ça vous dit quelque chose?
Oui, hein, me too.
Pouvez-vous la décrire?
Donc, il s'agit d'une œuvre qui représente la modernité de la femme. Donc, Hobbes représente une femme qui n'est pas tout à fait nue. À partir de cette œuvre, il décrit d'ailleurs une de ses théories, qui est la théorie artistique du demi-nu hobbesien. La femme a des jarretières, elle a des gants noirs, un chapeau, un Gainsborough. Ses yeux sont occultés par un tissu, donc elle marche à l'aveugle et elle se laisse guider par un cochon qui lui avance, on dirait, ils avancent sur une poutre comme ça, une espèce de frise. Dans cette frise, il y a des espèces de bas-reliefs sculptés où on voit les arts classiques, donc la sculpture, la poésie, la musique, qui sont vraiment figés dans la pierre. Et donc, ce que veut montrer l'artiste par là, c'est vraiment son credo artistique, c'est la modernité. Et c'est la femme moderne qui va révolutionner l'art, qui va sortir l'art de sa torpeur. C'est elle qui, se laissant guider par ses instincts, et il y a des petits angelots dans le ciel qui célèbrent un petit peu la beauté de cette femme moderne. Et c'est vraiment tout le credo artistique de Hobbes.
Il participa aussi à très peu d'expositions. Très peu d'expositions personnelles. À un moment donné, le Cercle des 20, ici, qui était quand même un des cercles les plus importants de la fin du 19e, lui demande d'exposer chez eux. Parce que, au départ, Hobbes dit oui. Il dit oui parce qu'il aimait ce cercle qui n'avait pas de doctrine, qui n'avait pas de philosophie, qui laissait un peu la liberté des artistes. Et puis, très vite, il s'en va. Comme s'il avait peur d'être attrapé par un mouvement et que sa liberté aussi de création ou d'être allait être empiétée.
Le calvaire 1882, c'est ce que vous voyez, Anne Larue.
Oui, une héliogravure hein, retouchée au vernis mou avec un texte. Alors effectivement, qui représente un calvaire, si l'on veut, un calvaire christique, mais pas tant que ça, puisqu'il s'agit d'une femme nue. Et la croix contre laquelle elle est en train d'être attachée par un personnage derrière qui semble prendre grand plaisir à rouler autour d'elle divers liens. Cette croix ressemble plus à une croix de Saint-André qu'on voit dans les boîtes de nuit spécialisées qu'à une croix véritablement religieuse. Donc on voit là vraiment une forme de l'esprit subversif, je crois, de Félicien Hobbes. On peut ajouter que le Christ derrière est présenté comment dire, bon, en train de bander, quoi, il n'y a pas d'autre mot.
En priap.
En priap, voilà, oui, en itiphalique. Et c'est lui qui est au calvaire. Alors, il y a un double jeu, le Christ en calvaire est dans cet état déployé, et devant la femme qui subit une sorte de calvaire parallèle, attachée à sa propre croix, typiquement sadomasochiste, en vérité.
À la fin de sa vie, il était reconnu en tout cas, peut-être pas du grand public et de tous, mais en tout cas de l'élite artistique et littéraire parisienne, et même, je vais dire, internationale de l'époque, c'est-à-dire en Angleterre ou dans les grands cercles belges, il était connu et il était reconnu. Et les jeunes aussi le prenaient un peu à certains moments comme un chef et comme un guide, en tout cas, même si c'était pas le grand public. Et c'est vrai qu'il est mort dans cette reconnaissance, et on le voit aussi par les ventes publiques. Quand on reprend les catalogues de vente de la fin du 19e, il y en a énormément, et l'œuvre de Rops se vend un certain prix. Et puis il est comme une période de purgatoire, où je vais dire jusque dans les années 20, il a encore une certaine notoriété, et puis on ne voit presque plus rien de Rops qui circule sur le marché, comme un peu un artiste oublié, on ne le voit plus dans aucune exposition. Et puis il faut attendre un peu les années 60 pour qu'on voit tout doucement une redécouverte du personnage, avec, c'est vrai, ces dernières années sûrement un enclin qui était peut-être lié aussi au fait qu'on vivait une fin de siècle et qu'on a redécouvert aussi la fin du 19e, et qu'il y a eu beaucoup d'expositions, beaucoup de travail sur des scientifiques sur cette période, et qui a redécouvert et remis en scène toute une série d'artistes oubliés.
Pourtant, en croire, Félicien Rops avait des collectionneurs privés, donc ses travaux érotiques passaient sous le manteau, il était déjà question, pour échapper à la censure, qu'on pourrait dire, de club privé des yeux.
Oui, très probablement les collectionneurs en question. Alors ça jette effectivement sur la pratique de Félicien Rops une lumière particulière. Il est clair qu'il ne s'exprimait pas du tout pour tout le monde sous la forme de gravures qui auraient été donc scandaleusement répandues auprès d'un peuple très large. Mais vraiment, il joue le jeu du sous-le-manteau. Donc c'est d'autant plus érotique que c'est sous-le-manteau. Il y a certainement une valeur ajoutée d'ailleurs à cet érotisme sous-le-manteau. Alors on voit ici par exemple un couple en train de faire l'amour, c'est haine et amour de prêtre. Donc le commentaire indique le mot viol hein, en crayon de couleur rouge, et on a l'impression de voir une espèce de gigantesque pieuvre ou un animal fabuleux, un animal presque monstrueux. Rops est toujours à la limite entre l'érotisme et le monstrueux, et c'est peut-être ce qui donne cette espèce de gravité tragique qui n'a rien de religieux, loin de là, à son œuvre. C'est un érotisme, non pas forcément associé au macabre, hein, comme on le répète sans cesse, mais à la puissance d'une monstruosité fascinante. On en a un exemple typique ici, je crois.
Ça date de 76, vous dites, Jacques Lenner. Et de quoi s'agit-il ? Une performance ?
Non, pas du tout. Je faisais des photos comme ça pour m'amuser. Là, en l'occurrence, je m'étais mis un masque, une tête de cochon. Et bon, comme je suis aussi historien de l'art, j'ai établi un rapport, évidemment, avec l'œuvre bien connue de Rops, Pornocrates. Et alors, j'ai mis une petite inscription. L'artiste est un cochon, il avale tout, et en art, tout est bon. Voilà. Et il se fait que dans l'exposition, très belle exposition de Namur, du musée Rops, consacrée à Pornocrates de Rops, ils ont invité deux, trois artistes contemporains qui avaient fait des œuvres en rapport avec celles de Rops. Il y a Cherbier et moi, et il y a Bury, œuvre exceptionnelle aussi. Voilà. Comme quoi, des petites choses qui étaient fourrées dans une farte au fin fond de mon atelier. Est ressorti comme ça.
Allégorie qu'on trouve également du point de vue de la vérité, qui est une femme nue aux yeux bandés.
Exactement, c'est un peu le même principe. Il est aussi fort influencé dans cette œuvre, on voit cette influence de l'Antiquité, de la période antique chez Rops. Il a repris énormément toute cette idée aussi de sculpture, etc. Il fait allusion d'ailleurs à la pornocratie qui était au Xe siècle. C'est les historiens qui ont nommé cette période-là pornocratie. C'était une période où les papes, la papauté, étaient influencés par des femmes légères. Donc, à l'époque, voilà, les papes ne devaient pas être nécessairement célibataires. Et donc, il y avait toute une série de courtisanes qui étaient dans les palais et qui, en fait, modifiaient la vie culturelle et religieuse de leur époque. Notamment la fameuse Théodora, que Robs a représentée dans un autre dessin. Et donc, il y a vraiment ce lien entre cette période de la pornocratie et cette figure, en fait, de la femme fatale, la femme qui influence, voilà, d'une manière parfois négative et subversive, en tout cas, la gente masculine.
Il est né parmi les étoffes. Quels sont ses rapports avec les femmes, Bernadette Bonnier?
Les rapports avec les femmes chez Robs, ils ont été importants, essentiels pendant toute sa vie. C'est vrai que c'est un être qui a aimé les femmes, hein, qui a eu nombre d'aventures féminines, qui a eu une vie sentimentale très, très particulière pour ce 19e siècle, puisqu'il épouse de manière très conventionnelle la fille d'un magistrat namurois, qui possédait la maison où est le musée maintenant, donc une maison qu'il a connue, hein, Charlotte Paulet de Favot, avec qui il va avoir deux enfants. Et puis, c'est vrai que ses escapades, ses départs à Paris, lui font un jour rencontrer plusieurs jeunes dames, dont des cantatrices au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, Alice Renaud, avec qui il a eu une aventure fulgurante qui a valu un procès à Robs après, parce que cette Alice, enfin, du temps où elle était la maîtresse de Robs, elle apprend que Robs a une femme légitime. Puis elle apprend qu'il a aussi deux amis à Paris. Et donc elle a fait un scandale dans la maison de Robs, chez la femme légitime, en racontant tout à Charlotte Paulet de Favot. Et c'est un peu cette esclande qui a provoqué la séparation officielle d'après sa femme, qui lui écrit une lettre. « Mon ami, c'est la 8e aventure que je vous connais, maintenant c'est terminé entre nous. » Mais il a eu d'autres procès avec cette Alice Renaud, parce que c'était aussi une femme de vie légère, dirons-nous, qui après avait épousé un vieux monsieur et qu'elle a trompé allègrement, et ce monsieur l'a assassiné un jour. Donc au procès d'Alice Renaud, toute son histoire est ressortie et Robs a été invité à témoigner et à le ressortir à cette époque. Mais donc il va, comme je vous le disais, avoir à Paris, hein, deux jeunes amies, et ces amies étaient aussi des couturières. On retrouve l'amour de l'étoffe qui était présent. Et en fait, il rencontre au bois de Boulogne deux jeunes sœurs qui étaient assez jeunes à l'époque, 16 et 18 ans, Aurélie et Léotine Duluc, dans les années, fin des années 1869, et il en tombe amoureuse, et les deux sœurs pareillement. Et donc, ils vont commencer à entretenir une relation à trois. Et quand ils décident de s'installer à Paris, elles ne le reçoivent pas tout de suite, parce que c'est l'époque où Alice Renaud a fait ses esclandres. Donc, elles apprennent qu'il avait aussi une maîtresse en Belgique. Mais très vite, le couple se remet, je vais dire, en bonne uniformité. Et il va habiter avec les deux sœurs. Hein, il aura de Léotine, l'aînée, une fille qui s'appellera Claire et qui épousera l'écrivain belge Eugène de Mulder. Et d'Aurélie, il aura même un fils, Jacques, mais lui qui est décédé à quelques jours après la naissance. Et donc, ce fut véritablement une union assez parfaite. Je crois qu'elles ont pu comprendre aussi la personnalité de Robs, son besoin d'évasion. Et quand on lit la correspondance amoureuse, qui est toujours conservée à la Bibliothèque royale de Bruxelles, les lettres des sœurs Duluc à Robs, elles signaient ensemble, et leurs lettres s'étaient signées Auré Léo. Parfaite alliance d'Aurélie Léotine, et donc qui témoignait leur amour là-dedans. Et comme il dit, il l'a laissé tomber dans une lettre, il le dit très bien, sa fille était malade, il a beaucoup eu de crainte qu'elle décède, et il dit « Ma fille, ben c'est la fille des amours, c'est la fille pour laquelle j'ai laissé tomber mes marques de bourgeois. » Et donc là où cet enfant, qui quand même était un enfant de bourgeois, qui a vécu au départ dans une certaine bourgeoisie, est allé jusqu'au bout de sa pensée et de sa liberté en laissant tomber toutes ses marques pour assumer à un moment donné cet amour très étrange pour cette fin du 19e.
Alors je m'adresse à Jacques Van Lennep, l'historien du 19e siècle, spécialisé dans la sculpture du 19e siècle,
ouais,
je crois.
C'était le cas.
Et cette figure de Félicien Robs, à vos yeux,
est-elle une figure explosive ?
Oh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un artiste hors du commun, de par son inspiration, qui a, tout au cours de sa carrière, développé une critique assez violente de la bourgeoisie de son temps, et qui avait un faible, disons, pour des œuvres qui, à l'époque, pouvaient être considérées comme des œuvres pornographiques. Hein. Donc, on les voyait sous le manteau, et d'ailleurs, à la lecture du catalogue édité par le musée Hobbes, on se rend compte que cette pornocratesse, il a essayé de la vendre, mais avec beaucoup de difficultés. Il a même été question à un moment donné qu'un éventuel acheteur conçoive une espèce d'encadrement spécial où il y aurait eu sans doute un volet qu'on pouvait ouvrir et fermer, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé également pour le fameux tableau de Courbet, L'Origine du Monde, à un certain moment.
Les croquis marginaux, Anne Larue, qui sont dessinés sur les gravures.
Alors c'est le magnifique travail d'Hélène Védrine, le travail de chercheur qu'elle a fait. Elle a retrouvé des gravures de Félicien Rops où apparaissent ce qu'on appelle donc des croquis marginaux. Et on doit préciser tout de suite qu'il ne s'agit absolument pas de croquis au sens petit trait de crayon léger. Au contraire, hein, ce ne sont pas des croquis, ce sont des dessins parfois achevés est tellement plus important, on a le cas ici notamment, hein, plus important que la gravure elle-même. Voici une gravure donc intitulée Curieuse, hein, qui représente une femme enlacée au dieu Pan, et elle est accompagnée donc d'un croquis marginal qui n'a rien d'un croquis et qui est de taille supérieure à celle de la gravure elle-même. Donc bon, il s'agit de Diane. Alors le croquis est infiniment licencieux, hein, puisque Diane utilise la queue de son chien dans un usage que je ne préciserai pas davantage par pudeur.
Radiophonique.
Pudeur radiophonique.
Oui, un écrin, c'est-à-dire que l'œuvre normalement n'est pas visible, mais que on en trouve un volet ou un écran pour ne montrer l'œuvre qu'à des personnes averties, des initiés.
Rops, on sait bien, son lien avec la religion est très ambigu. Hein. Il vient d'une famille extrêmement catholique. On a ses petits diplômes d'enfant de cœur et de compagnie de Jésus, des choses comme ça. Et puis, en même temps, c'est vrai que vers l'âge de 15 ans, il va vraiment se durcir très très fort par rapport à la religion. C'était un modèle qui venait du côté de chez sa mère. Toute sa vie, il va se moquer en fait du monde religieux. Que ce soit les moines, les prêtres, les religieuses. Il y a une fameuse gravure très érotique qui s'appelle la Sœur Marie à la coque et qui fait allusion à une sœur qui s'appelait réellement la Sœur Marie à la coque et qui décrivait ses extases mystiques. Et évidemment, Rops a repris ces textes en les transformant évidemment en extases érotiques. Et donc, voilà, c'est une gravure qu'on expose au musée.
C'est une œuvre ambiguë et moi j'ai été très surpris qu'on fasse cette exposition consacrée à cette pornocratesse alors qu'il y a cette campagne « Balance ton porc » qui fait fureur. Or c'est un pur hasard. Namur n'a pas programmé cette exposition. D'ailleurs les expositions se programment longtemps en avance. Et donc, ça va, mais ça tombe bien, et il y a même eu, c'est très curieux, à l'atelier 340, donc il y a quelques semaines, il y a eu deux expositions successives, si je ne me trompe, également sur le thème du porc, du cochon. Et là, c'était donc une dizaine d'artistes contemporains qui avaient proposé des créations qui ont été reproduites sur des bâches gigantesques de 20 mètres carrés. Donc ça fait quand même deux expositions, hein, sur le thème du porc au moment où il y a cette campagne. Mais c'est un pur hasard. Hein.
Alors, l'idée est née en fait de toutes ces gravures que nous avons d'Albert Bertrand. Donc Albert Bertrand, c'était un graveur qui habitait à Paris, qui lui-même a eu... On a très très peu d'éléments sur la vie de cet Albert Bertrand, mais apparemment, c'était quelqu'un qui était un très bon artisan. Donc il maîtrisait très très bien la reproduction en couleur, ce qui était assez neuf pour l'époque, hein, puisque... Il devait travailler au repérage et la communauté française, enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles, possède et met en dépôt au musée depuis de très nombreuses années une vingtaine d'états de cette pornocratesse et ces états ne sont jamais exposés. Et donc on a mené avec la Fédération toute une campagne de restauration, d'encadrement, etc. pour que ces gravures, ces états soient présentables et exposables. Et donc ça donne vraiment non seulement un aperçu du travail de ce qu'est la gravure en couleur à l'époque, hein, puisqu'on est très loin d'une impression offset, ce qu'on peut aujourd'hui faire. Là, à l'époque, il y a tout un travail au trait, d'abord, au repérage. Hein, c'est l'œuvre qu'on voit là, en haut à droite. Et puis, de là, l'artiste va commencer à travailler et à placer des couleurs. Mais donc, il y avait aussi le problème d'avoir accès à cette œuvre en couleur. Donc Robs devait nécessairement se déplacer avec son dessin sous le bras pour aller le montrer à un dessinateur. D'où aussi l'intérêt pour lui de réaliser des plus petites versions de son dessin. Également pour que ce soit transportable, pour que ça puisse être aussi reproduit dans des catalogues avec un travail d'eau forte, d'aquatinte ou alors même d'héliogravure. Donc il y a toute cette dimension aussi qui nous semblait importante de rappeler. Parce qu'aujourd'hui, l'impression, c'est presque plus rien. On prend une photo, on l'intègre dans son ordinateur, on pousse sur print, et on a cette image en couleur si on le veut. À l'époque, tout était beaucoup, évidemment, beaucoup plus compliqué. Et pour le public, il était très difficile aussi de voir une gravure en couleur ou dans un livre même. Donc ce lien à la couleur est vraiment très intéressant et on peut voir à travers toute la série les 20 états préparatoires à la gravure finale, on peut voir vraiment le travail de cet artisan, d'Albert Bertrand.
Cette image de Rops qui montre donc une femme dévêtue et qui tient en laisse un cochon. Enfin, moi, j'ai lu un peu tout ce qu'on raconte dans le catalogue à propos de cette œuvre. Et il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est que la femme a un bandeau sur les yeux et que, en fait, elle ne promène pas ce cochon. C'est le cochon qui la promène, comme un aveugle est entraîné par son chien. Alors, je me demande ce qu'il y avait dans la tête... de Rops quand il a créé cette figure. Est-ce que ce serait la femme qui se laisse entraîner par des hommes un peu pervers et qui est assez stupide pour ne pas s'en rendre compte? Enfin, je ne sais pas. Toutes les interprétations sont possibles. Et d'ailleurs, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, bon, ce sont des commentaires, ce sont des lectures, tandis que l'œuvre en tant que telle est d'une puissance et d'une audace incroyable.
Pourquoi Jacques Charlier est-il présent dans cette salle ?
Alors, Jacques Charlier a réalisé en 2000 une performance à Eupen avec justement cette thématique de la pornocratesse, mais à la différence que sa pornocratesse, à lui, n'a pas de cochon. Et donc, l'idée un peu sous-jacente de son travail, c'est que justement, nous, en tant que voyeurs, en tant que spectateurs, nous sommes un peu les personnes qui sommes au bout de la corde tenue par ce modèle qu'il avait engagé à l'époque à Eupen. Il y a tout un texte en fait qui accompagne cette œuvre. Hein. Donc il y a une vitrine dans laquelle il a placé les accessoires qui étaient utilisés pour la performance. Et il explique évidemment que voilà, la manière dont Rops a récupéré d'une certaine manière, par Namur en général, hein, une idée un peu... absurde que Rops, qui a tant critiqué les Namurois, se voit maintenant octroyer un musée et une reconnaissance. C'est vrai que ça a un côté un peu comique ou loufoque, en tout cas, de se dire que Robs, qui regrette tellement de ne pas être reconnu en Belgique, représente maintenant, d'une manière même parfois diplomatique, la Belgique.
Avec une vitrine à la Marcel Brotars, hein, où les accessoires du modèle sont représentés avec les fétiches qu'il faut, les chaussures de femme, le masque de la vanité, tête de mort.
La ceinture de perles, comme dans la Pornocrates.
Allah, pourquoi intéressant?
Alors ça, c'est intéressant parce que, bon, d'abord, le croquis est extrêmement léché, travaillé en couleur. Alors ça s'appelle le dernier pape, Finis Latinorum. Alors ça, c'est un thème qui est très fréquent à la décadence, intéressant par rapport à l'idée de dernier pape, par rapport à la libre pensée de Félicien Robs, d'abord en première instance. Donc on voit sur la gravure une sorte de masque de morbide surmonté de la coiffe papale en train de verser des larmes qui peuvent être des larmes de sang. C'est quelque chose à la fois dérisoire et de puissant que cette gravure, qui ne va pas, là encore, sans un certain anticléricalisme marqué, hein, avec ce crâne qui pleure. Et l'anticléricalisme est encore plus marqué par la gravure, au-delà de la gravure, par le croquis marginal, qui représente une scène sexuelle, les jambes, on voit une femme aux jambes largement écartées, et un homme dont le visage plonge dans son sexe, par-dessus un fauteuil. Donc cette femme qui semble éclatée, presque éclatée comme une grenade ou comme un fruit mûr par la violence du geste masculin, le tout étant à la limite de... Enfin, l'homme est encore en costume de ville, enfin ça a quelque chose d'infiniment prosaïque. Ça contraste avec le climat presque allégorique de la représentation du dernier pape. La tête dans un ciboire, en train de pleurer, la tête de mort en train de pleurer. Enfin, on a une sorte de grincement qui joue à la fois de la gravure elle-même et du croquis marginal.
Jacques Lenep, qui nous a contactés en nous disant qu'il avait aussi réalisé des performances et des œuvres en lien avec cette œuvre de la Pornocrates.
La tentation de Saint-Antoine. Ce qui est amusant, c'est que on retrouve le cochon. Ben, là, forcément, il a sa place, puisque le cochon est l'animal emblématique de Saint-Antoine. Mais il fallait tout de même être audacieux à l'époque pour représenter une femme nue à la place de Jésus-Christ sur la croix. Hein. C'est quand même...
Il y a aussi une autre image où une femme est rivée à une croix de Saint-André. Ce sont des images qu'on trouve aujourd'hui dans des clubs spécialisés.
Ah oui, je ne connais pas, non.
Véronique Carpio.
On voit très bien dans sa correspondance, il dit qu'il vend aussi bien en Angleterre qu'en Italie, aux États-Unis. Il parle aussi d'un plafond qu'il a réalisé, par exemple, pour un Américain. Il mentionne également un Américain qu'il va voir dans un hôtel à Paris pour vendre son dessin, mais cet Américain demande qu'on ajoute une ceinture de rose pour cacher le sexe de la femme. Et là, alors, il est tout à fait opposé à cette idée. Donc, il dit, voilà, les négociations sont terminées maintenant avec cet Américain. Et puis, il parle également d'un autre amateur. Mais d'abord, il va voir la collection de cet amateur et il se rend compte qu'il n'a que des choses érotiques de bas étage, de mauvais goût. Et là, il dit qu'il faut quand même savoir placer ses enfants, qu'il dit. Et il refuse aussi de vendre son œuvre à ce personnage. Donc, on n'a pas vraiment les noms, évidemment, mais ça reste très intéressant de voir comment il veut contrôler... de bout en bout, évidemment, pour éviter aussi qu'un marchand ne prenne une marge, il préfère s'occuper de la vente. Et puis il se rend compte que voilà, si c'est pas possible, quoi.
Mais cette figure de Félicien Robs, étudiant sans étudier à l'Université libre de Bruxelles, avec De Coster comme compagnon, auteur d'ouvrages, enfin pas d'ouvrages, mais de revues licencieuses. Contestataire avant l'heure.
Ouais,
ouais. On est devant une tenture où sont représentées la femme avec les volets. Et puis, à l'arrière-plan, on la voit marcher. Et donc, quand on entre dans cette partie de l'exposition, eh bien, on est face à une vidéo d'animation qui a été réalisée exprès pour l'exposition par Antoine Rogers. qui est dessinateur et qui s'est inspiré de tous les états de gravure de Bertrand. Donc toutes les gravures que nous avons en bas, qui sont exposées, se retrouvent en fait dans ce film, qui dure plus ou moins 4 minutes, et où on voit, donc le fond sonore est aussi assez mystérieux, et on voit la pornocratèse qui marche avec le cochon, là, les petites oreilles qui bougent, il y a vraiment cette idée du mouvement, et au fur et à mesure, elle apparaît, elle disparaît en fonction de ce que l'artiste a aperçu et comment il a monté en fait les différents états de gravure de Pornocrates.
Ce que je constate, c'est que les temps n'ont pas changé, hein, et que les images qui étaient jugées licencieuses à l'époque le seraient tout autant aujourd'hui.
Jacques Lennep.
Ça n'aurait pas été le cas, par exemple, il y a 20-30 ans, mais actuellement, il suffit de voir les censures qui sont exercées sur les messageries, les réseaux sociaux, dès l'instant où on montre un bout de nichon, ça devient vraiment grave. Donc on se retrouve pratiquement, j'ai l'impression, dans la même situation d'une pudibonderie invraisemblable qu'à l'époque de Félicien Rops. Hein. Mais moi, par exemple, en tant qu'artiste et historien de l'art, je fais régulièrement dans mes travaux des références, principalement à l'histoire de la peinture et dans les sujets que je traite. Hein. Et en ce qui concerne Rops, en 2013, parce que bon, je ne fais pas que de la peinture, je suis un artiste pluridisciplinaire, donc je fais des installations, des performances, etc. Et en 2013, j'avais consacré une grande exposition importante par le nombre d'œuvres de toute nature sur le thème de la charcuterie. Ça s'appelait Fantaisie charcutière. Et lors du vernissage, j'avais organisé une performance qui était en référence à Félicien Rops, mais je l'avais appelée d'ailleurs Pornocrates 2013. Et il y avait une femme, une jeune femme, qui se prêtait au jeu, légèrement vêtue, et qui esquissait des pas de danse avec une saucisse que j'avais fait fabriquer spécialement pour l'occasion d'1,50 m de long. Et alors, pendant qu'elle faisait cet exercice, j'énonçais des poses du Kama Sutra en alternance avec des noms de charcuterie, boudin, saucisse, etc., etc. Et alors, ça se terminait. J'emmenais le public vers un buffet hein, qui était recouvert d'un grand drap blanc. On enlevait le drap blanc et c'était un buffet de cochonnaille sur lequel trônait une tête de cochon. Donc, bon, c'était quand même, par rapport à la petite image qui figure au musée Rops, c'était quelque chose quand même de plus actuel. Et une grande orchestration. On a tourné une vidéo de cette performance, évidemment, qui a été diffusée pendant toute la suite de l'exposition qui avait lieu à la galerie Exit 11.
Mais ce qui m'intéresserait, c'est de rencontrer les artistes vivants comme Jacques Lennep ou Jacques Charlier pour évoquer le besoin qu'ils ont eu de passer à l'acte, c'est-à-dire à l'état de performance.
Alors oui, Jacques Lennep, il a fait aussi des performances dans une galerie namuroise où aussi il a travaillé plutôt sur le cochon en tant que tel, la viande.
Dans ce registre, il y a évidemment l'œuvre de Courbet, l'origine du monde, hein, qui fait, bon, ça c'est le standard. On se demande d'ailleurs comment ça se fait qu'on peut encore l'exposer au musée d'Orsay. Et que les enfants des écoles défilent devant cette œuvre parce que on constate que dans certains musées, on commence à décrocher des œuvres. Hein. Ah oui.
Vous avez des exemples ?
Mais c'était le cas en Angleterre il y a 2-3 mois, je ne me souviens plus dans quel musée anglais, où un grand tableau qui montrait un pâtre, un berger, dans un bois et une mare, et il y avait 6 ou 7 femmes dénudées dans cette mare qu'il contemplait. Ce tableau était décroché.
Une œuvre qui serait difficilement refaite aujourd'hui. Hein. Les contextes ont tellement changé.
Terrible.
Hein.
Alors que va-t-il advenir de tous ces marbres grecs qui n'ont pas nécessairement une feuille de vigne, je ne sais pas.
Hein. Parce que derrière ça, il y a aussi, de la part de Hobbes, toute une réflexion sur le modèle aussi. Donc on voit qu'il critique les modèles en disant, oui, on les déguise en modèle antique, en Diane, mais en fait, celle que j'aime, moi, c'est celle qui descend des tréteaux et qui se repoudre et qui met ses vêtements du 19e. Donc il est vraiment dans cette admiration aussi de la femme qu'il voit tous les jours. Et il n'aime pas du tout cette idée très académique de transformer, en fait, c'est tout le conflit qui l'oppose aussi à Stevens, où il dit, mais il fait venir des prostituées dans son atelier, des femmes de petite vie, et en fait, il les déguise en bourgeoises, et il leur donne les attributs des bourgeoises, japonisants, et des choses. Donc lui, il est à l'opposé de ça, il dit, moi, ce n'est pas ces femmes-là que je veux représenter, ce sont les cocottes, ce sont... les demi-mondaines, ce sont voilà, toutes ces femmes qui doivent survivre aussi, et notamment par le biais de la prostitution au 19e, ce qui était quand même assez courant.
Au musée Félicien Hobbes à Namur, Pornocrates dans tous ses états, jusqu'au 13 mai.
Il a beaucoup d'admiration pour ces femmes.
Il y avait une liberté dans les années 75, 76 et les années 70, après 68, perdue aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Ah oui, bon, moi, bon, je commence à avoir un âge canonique, hein, puisque je suis né en 41, donc je vais avoir 77 ans. J'ai été très engagé après 68 dans l'ère des années 70. C'est une grande période historique, hein, où vraiment on était un art en rupture, on s'est lancé dans toutes sortes de nouvelles formes d'expression, installation, performance, mail art, body art, j'en passe des meilleurs. On était tout à fait libre. Je me souviens d'avoir vu des performances qui étaient quand même extrêmement audacieuses et qui seraient mais impensables actuellement, impensables. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, comment, pourquoi, aucune idée. Aucune idée. Et ce qui est grave, c'est que cela amènera nécessairement une autocensure, si ce n'est déjà le cas, chez les artistes. Parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent montrer, ce qu'ils ne peuvent pas montrer. Ça, c'est...
Oui, je pensais à une pièce à vous... Avenue Louise, Tania.
Ah oui, 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 oui.
Impossible aujourd'hui.
Ah oui, oui, Tania, modèle pour photo de charme. C'était chez Brachot en 1979. Et ça ne passerait pas. D'ailleurs, j'ai envoyé de temps en temps, j'envoie par une messagerie américaine des mails ou suivant l'une ou l'autre occasion pour un peu montrer ce que je fais. Et il y a 2-3 semaines, c'était la journée de la femme, je crois, me semble-t-il. Et à cette occasion, j'avais envoyé donc des photos de 2 personnes que j'avais exposées donc dans les années 70. D'une part, une fermière, Madame Paul Cisse, qui était en contact épistolaire avec le monde entier, hein, de Schoenlein à Nixon. Et une photo de Tania, de face, nue, et pourtant un bandeau, hein, peace and love, hein, parce que ça c'était dans l'esprit du temps. Eh bien, mon compte a été supprimé, donc aux États-Unis.
Avec Véronique Carpio, Jacques Lennep, et les voix de Bernadette Bonnier et Anne Larue.
Et puis on a toute une série de ramollissements aussi, de Paul Bury, qui sont vraiment magnifiques, qui permettent aussi de voir un peu le brouillage de ce code, quelque part, du symbolisme ou du surréalisme. Un beau clin d'œil, en tout cas, à l'œuvre de Hobbes.
qui se voulait pas trop trop sérieuse non plus.
Pornocratesse dans tous ses états. Par Thierry Genicot.
Alors là, derrière le rideau, il y a évidemment, ce rideau représente aussi l'évocation qu'on trouve ici dans une lettre de Rops. Rops essaye de vendre son dessin en Belgique. Et malheureusement, il est fort scandaleux. Et Picard, qui a acheté la Tentation de Saint-Antoine, où il y a cette femme en croix, et Saint-Antoine, au lieu de voir le Christ en croix, voit la femme en croix. Picard ne veut pas l'acheter, n'est pas trop intéressé. Et donc, Rops va faire intervenir Mars, qui est Maurice de Bonvoisin, qui est un verviétois, qui est aussi un dessinateur et qui joue un peu les marchands aussi pour lui. Et il va essayer d'influer pour que Mars lui trouve un autre riche collectionneur qui pourrait lui acheter son œuvre. Et Mars n'arrive pas tout à fait bien à la vendre, il demande de diminuer le prix, etc. Et Rops propose la création d'un meuble avec un volet, hein, des petits volets, on la voit ici. Et il propose donc toute une série de décorations sur le meuble à volets, parce qu'en fait Picard avait réalisé pour la Tentation de Saint-Antoine ce petit meuble, et en fonction des gens qui entraient dans son salon, il fermait ou il ouvrait le meuble. Et donc on a retrouvé aussi les échanges entre Picard et Rops. Picard qui dit « Oui, mais moi, j'ai pas trop envie, monsieur Rops, que vous imitiez mon meuble à voler. C'était quand même mon idée. » Et alors Rops explique « Ben voilà, il suffirait de décorer de telle ou telle manière avec des cuivres. Hein. » Alors on a fait une espèce de petite simulation ici, hein, où il parle qu'il va mettre des cuivres où seront gravés un angelot et un petit cochon, de faire en satin rouge avec un gros carton. Donc il dit « On peut aussi ne pas faire que du bois, on peut faire aussi des volets en gros carton, et on pourrait mettre des fleurs avec une belle serrure, et l'intérieur pourrait être complètement doré, avec un passe-partout doré, et il pourrait y avoir des grisailles fleuries à l'intérieur des volets.
Le Monde Invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.